grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant.
Il m'arrive environ une fois par mois d'aller faire un tour dans une librairie. On a toutes des accoutumances, c'est. La femme dit, il y en a qui c'est de boisson, il y en a qui c'est de drogue, moi c'est des livres. Et j'aime bien aller voir ce que les gens lisent. Depuis que je travaille dans une maison d'édition, j'aime bien voir les couvertures que les gens ont appliquées aux livres pour les vendre. Et j'ai été frappé dernièrement, parce que je pensais justement à ce passage, de réaliser combien il y en a des dragons sur les couvertures des livres. Ça a l'air, c'est une idée, un thème, un sujet important dans les livres, surtout les livres de science-fiction, j'en vois qu'il y a beaucoup de ça. Et si vous ne le saviez pas, le Seigneur des Anneaux a commencé avec un autre livre qui s'appelle « Hobbit », qui est une guerre entre un dragon et un hobbit. Intéressant que toutes les cultures, il y a certaines idées, certains concepts, certaines histoires, certaines fables peut-être, qui sont communes à toutes les cultures. Aller en Amérique du Sud, dans l'Amazon, dans les îles de la Pacifique loin, en Afrique, en Europe, les Amérindiennes ont toutes des légendes qui concernent les dragons. On nous dit que les dragons en France étaient différents des dragons en Angleterre. Les dragons en France étaient concentrés sur la rivière Rhône et ils avaient l'habitude d'aller sur les châteaux puis prendre en captivité les belles jeunes femmes pour les amener dans leurs endroits où ils demeuraient, dans une caverne, et ils forçaient à ces jeunes femmes-là d'élever leurs jeunes pendant 7 ans, puis après ça, ils les libéraient. Les dragons en Angleterre étaient beaucoup plus méchants. Eux, ils allaient chercher des jeunes femmes et les manger. Et dans l'histoire ici, nous avons justement des dragons. Mais dans le chapitre 12, où sommes-nous? Mais nous avons déjà vu les sept seaux qui ont été ouverts, et nous avons vu les sept coupes qui ont été versées, les sept trompettes qui ont sonné, et nous commençons bientôt, en chapitre 16, à regarder les sept coupes qui seront versées, qui sont les dernières et les plus importants jugements. Et les chapitres 12 au chapitre 15 sont une grande introduction et presque une parenthèse, un panorama qui introduit ces derniers jugements, les dernières trois années et demie de grande tribulation, ce qui concerne. Et ce que nous allons voir cette semaine et la semaine prochaine dans le chapitre 12, mais c'est une esquisse des forces en arrière de ce dénouement de l'histoire de l'humanité sur la terre et les personnages qui joueront un rôle dans ces événements et qui ont joué un rôle dans ces événements. Et nous allons voir l'arrière-plan de la rébellion de Satan. Et nous allons voir les effets de cette rébellion de Satan à travers l'histoire de l'humanité et de cet univers, et le dénouement de tout cela et les effets de cette rébellion sur les dernières trois années de la grande tribulation. Maintenant, je pense que c'est évident dans ce chapitre qu'il y a trois grands symboles, trois grands personnages que nous voyons. Il y a d'abord la femme, et il y a un enfant mâle, comme dit le texte original, et il y a le dragon. Et ce matin, je vais m'efforcer à essayer de comprendre ensemble qui sont ces personnages-là. Et nous allons commencer de parler de cette femme. Cette femme. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Bien, il y a différentes théories qui sont avancées. Je vais vous en mentionner quatre. Il y a d'abord la théorie que ce soit une vision inspirée par des mythes païens. Et d'autres vont dire, mais non. Cette femme est Marie, épouse de Joseph, et mère biologique de Jésus, comme on dit dans certaines églises, Marie la mère de Dieu. D'autres vont dire que c'est l'Église, cette femme, et encore d'autres vont dire que c'est l'os de la nation d'Israël. Nous allons regarder rapidement ces quatre théories, et je vais vous donner ce que je crois, et vous êtes des adultes, vous êtes capables de lire cela, de raisonner pour vous-même. D'abord, est-ce que c'est une vision inspirée par les mythes païens? Par exemple, Apollon est né de sa mère et le dragon, Python, et vous connaissez le mot Python, qui est un grand serpent, n'est-ce pas? Et ce mot-là vient du mot grec, c'est Dieu, qui est un dragon, essaie de manger Apollon dès sa naissance. Elle est là, parce que lorsqu'Apollon sort de sa mère, le dragon essaie de le dévorer. Et Apollon s'est sauvé, et 8 jours plus tard, a tué le dragon. Okay? Ça, c'est un des mythes dans la mythologie grecque et romaine. Puis on dit, voilà, Jean connaissait bien les mythes romains et grecs, et il est allé approprier cette image-là. Puis on n'a pas besoin de se limiter aux Grecs et aux Romains. Il étudie un peu la mythologie de l'Égypte et de Babylone. Puis comme toujours, les mêmes histoires, les mêmes mythes, les mêmes personnages, on change leur nom, mais c'est le même appel. Une évidence, comme je dis toujours, que notre grand ennemi du diable manque d'imagination. Une autre possibilité, c'est que l'empereur Domitien, qui a vécu, 85, dans peut-être une dizaine d'années avant que Jean ait pris l'Apocalypse, son fils est mort quand il avait 8 ans environ, si ma mémoire est bonne. Puis, lui a déclaré son fils comme Dieu. Son fils mort est Dieu. Puis, il a déclaré Seigneur des cieux et Sauveur du monde. Puis, il a appelé la mère de son fils la mère de Dieu. Donc, ici, on fait cela. Alors, peut-être que Jean s'est inspiré de cela, selon certaines. Puis, il y a des mythes aussi semblables dans les manuscrits de la mer morte. Mais je ne pense pas que Jean connaissait les manuscrits de la mer morte, ni les Esséniennes qu'ils ont fait. J'aimerais simplement vous faire noter qu'il y a des différences importantes entre cette vision et ces mythes. J'aimerais aussi vous faire remarquer que dans l'Apocalypse, il est très clair que Jean est hostile envers les pagans, les paganismes. Et l'Apocalypse, c'est une révélation qui est donnée par Jésus-Christ à son serviteur Jean. Et ça vient de Dieu. Et ce n'est pas un mélange de mythes païens. Deuxième théorie, donc, qui est cette femme, mais c'est peut-être Marie, l'épouse de Joseph, Joseph et mère biologique de Jésus. J'aimerais sur ça vous faire remarquer au chapitre 12 et le verset 1er que nous lisons un grand signe paru dans le ciel. Et au verset 3, un autre signe. Ce mot signe, c'est mos dans l'original. C'est un signe. Et je suis une personne qui interprète la parole de Dieu littéralement. Et quand le passage nous dit que c'est un signe, et c'est une image, n'est-ce pas? Pour comprendre comme cela. Puis, peut-être au verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Mais ce n'est pas le reste de la postérité de Marie dans cette histoire, c'est difficile à comprendre. Et je crois que nous sommes devant l'évidence que certaines personnes voudraient donner à Marie une place qui ne lui revient pas, même si on a pris beaucoup. Or, possiblement, c'est l'Église. Maintenant, les personnes ici qui pensent que l'Église, que c'est l'Église ici, peuvent donner expérimentalement. Parce qu'il y a en effet deux possibilités qui font un petit peu de bon sens. Je pense qu'on peut rejeter les mythes, puis on peut rejeter Marie. Mais c'est possible que ce soit l'Église et c'est possible que ce soit Israël. Les personnes qui pensent que c'est l'Église, ils ont cette interprétation-là parce qu'ils pensent que l'Église est Israël, n'est-ce pas? Vous comprenez? Non. Et, encore une fois, si c'est l'Église, mais c'est quoi le reste de sa postérité? Encore au verset 13, verset 14, 15, je crois. Cette interprétation serait possible seulement si nous ne faisons pas la distinction entre Israël et l'Église. Parce que c'est évident que Jésus n'est pas né de l'Église. Si l'Église a commencé le jour de Pentecôte, mais Jésus n'est pas né de l'Église, n'est-ce pas? Il est né 32 ans avant. J'ai quand même du respect pour les personnes. Puis il y en a peut-être ici, là, je sais qu'il y en a ici dans l'Assemblée qui adopte cette position-là. Je le respecte beaucoup. Pas une hérésie, c'est un point de vue différent. Et je vais essayer de montrer au moins de différence, puis avec le respect, présenter ce que nous comprenons généralement dans l'Église ici. Alors, dans la position qui est dite en millénial, puis là, vous savez que j'ai fini mon PowerPoint vendredi, je l'ai envoyé à Corinne, il l'a corrigé, et je sais que vendredi soir à minuit, il n'y avait pas de faute. Mais c'est sûr que 3 heures ce matin, je me suis réveillé, puis je l'ai changé. Ce qui est des fautes, c'est pas la faute de Corinne, c'est la faute de Corinne. Il y a un mot qui ne voulait pas sortir, c'est celui-là. Position en ville, je pense. Mais dans cette position-là, l'Église n'est pas distincte d'Israël. L'Église Israël, l'Église, c'est juste la continuation du peuple de Dieu, et l'Église était l'Ancien Testament, c'est Israël, aujourd'hui c'est nous autres, c'est toute la même Église. Mais les promesses faites à Israël seront accomplies dans l'Église. Puis le millénium est le règne du Christ dans le ciel aujourd'hui, pas 1000 ans à l'avenir, au futur. Alors le millénium de 1000 ans, c'est aujourd'hui, c'est le Christ qui règne au ciel. Ça, c'est le millénium spirituel. Et donc, on a tendance d'être historiste ou idéaliste et non pas futuriste, comme nous sommes. Dans ces événements, nous n'avons pas grand-chose à faire avec le futur, l'avenir est plutôt du passé. La position donc dite dispensationaliste, qui quelques-unes dans l'Église, nombreuses années, et je dirais même que l'Église évangélique d'amour ici en Israël, mais l'Église est très distincte d'Israël. Les promesses faites à Israël seront accomplies en Israël, pas dans l'Église. Donc il y aura, j'ai lu cette semaine le livre d'Ézéchiel, pas Ézéchiel, c'est un long livre, Et il y a beaucoup de promesses qui sont faites à Israël dans cette Église-là, dans cette ligne-là. Nous croyons en général dans l'Église, avec quelques exceptions, des personnes qu'on respecte, que ces promesses faites à Israël seront accomplies pour Israël et ne sont pas accomplies dans l'Église. Et le millénium est une règne future littérale par Christ sur la terre à la fin de la grande tribulation. Je dis cela pour qu'on comprenne que généralement, ceux qui sont de la théorie d'Anville vont dire que ça existe. Et ceux qui sont réunis le dispensationaliste vont dire que c'est Israël. Okay. Moi, je crois que c'est Israël en respectant les personnes qui ont d'autres idées. Et j'aimerais ça vous suggérer de considérer le passage dans Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Intéressant, on parle de cette vision d'une femme qui donne naissance à un fils. Christ est né d'une femme, non pas d'un homme. Parce que si Christ était né de Joseph, il aurait hérité de sa nature pécheresse. Mesdames, j'ai quelque chose à vous dire. Votre enfant, là, a hérité sa nature pécheresse, non pas de vous, mais de votre mari. Mais oui, mais c'est vrai. Théologiquement, c'est vrai. Mais remarquez bien que Christ est né sous la loi. Maintenant, qui est sous la loi? Est-ce Israël ou est-ce l'Église? Voilà. Israël qui est sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Et peut-être qu'on peut comparer cette vision. Vous avez, je vais le relire. Même, j'ai appris aujourd'hui que je ne peux pas chanter. J'allais demander si on pouvait, dans le randonnée d'honneur, avoir une piste d'une corde à kilomètre pour que je puisse participer. Puis là, j'ai écouté lire notre frère tantôt, je ne peux pas lire non plus. Mais je vais le lire. Un grand signe parut, Apocalypse 12, verset 1er, grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous vous souvenez de l'image, hein? Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, puis 12 étoiles. Vous vous souvenez de l'image? Vous pouvez tourner si vous voulez, je la mets sur l'écran si vous voulez, par-dessus. Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Parlons de Joseph. Vous vous souvenez de cette histoire-là, hein? Joseph qui était haï par ses frères, c'est pas pour rien. Pas pour rien que ses frères haïssaient. Joseph eut encore un autre songe, et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voyez-vous le lien ici? Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Les réponses c'est, ouais. Et c'est arrivé en Égypte, bien des années plus tard, n'est-ce pas? Qui est le père de Joseph? Et le nom de Jacob a été changé en Israël. Excusez-le, vous ne pouvez pas comprendre, je ne peux pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre, pas peut-être en comprenant ces questions. La vision ici n'est pas tirée d'un mythe païen, mais c'est tirée de la parole de Dieu, parce que Dieu, dans le Nouveau Testament, explique, ajoute à l'Ancien Testament. Hein? Tire de l'Ancien Testament. Et c'est Israël dont il est question ici. Voir l'Arche de l'Alliance, chapitre 11, le verset 19. C'est le verset juste avant le chapitre 2 dans le contexte. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'Arche de son Alliance a paru dans son temple. Ça, c'est-tu juif, ça? Israël. L'Arche de l'Alliance, les 12 étoiles, ce sont les 12 patriarches et les 12 tribus. Il y en a 11 en Genèse. C'est qui, là? C'est qui le 12e? Joseph lui-même. Israël est souvent présenté comme une mère ou une femme en travail. Puis, si vous avez pas, si vous êtes intéressé de faire des recherches là-dessus, là, Isaïe 13, 8, Matthieu 2, 18, Jérémie 4, 31, Michée 4, 10. Je pense que j'avais 100 références, là, à peu près 50 ou 60 références, je pense que c'était seulement. Israël est souvent montré la terre en travail, les couches. Puis de toute façon, dans l'Apocalypse, Israël est toujours vu comme étant distinct de l'Église. Juste avant, et juste après ce passage, nous avons les 144 000 témoins, puis en outil, qui est 12 000, les 7 tribus, les 7 tribus, et c'était uniquement des choses. Alors, j'identifie cette femme comme étant Israël, tout en respectant les personnes qui peuvent voir de ce que c'est l'Église. Maintenant, deuxième personnage qu'on voit, c'est l'enfant mâle. Et je suis content de dire que pour le reste de la matinée, on va tout le monde être d'accord aussi. L'enfant mâle, c'est qui? Mais c'est assez clair, là. C'est pas l'Église. Je pense que c'est l'Église. Mais c'est le Christ, c'est le Messie. Regardez le verset 5 de notre chapitre, s'il vous plaît. Elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bon. Enoch était enlevé vers Dieu, Élie a été enlevé vers Dieu, mais on ne lit pas d'Enoch et d'Élie, ils ont été enlevés vers le trône de Dieu, n'est-ce pas? Qui avait enlevé vers Dieu vers le trône de Dieu? Jésus-Christ, il est ressuscité quand il est monté vers son Père. Qui est assis sur le trône avec son Père au ciel? C'est Jésus. Et qui va perdre toutes les nations avec le verre de fer dans l'Ancien Testament? C'est Jésus. Donc, c'est Jésus, cet enfant. Et troisièmement, nous avons le dragon. Probablement, c'est le sujet deuxièmement, mais j'ai changé d'ordre. Qui est ce dragon? Mais encore une fois, c'est difficile de ne pas dire qui est-ce que c'est, parce qu'au verset 9, c'est clairement dit. Au verset 9, nous lisons ceci, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Alors c'est qui? Le dragon? Satan, diable. Yeah. Ancien, cette serpent ancien se réfère à quoi ça, le serpent ancien? J'ai parlé d'un panorama d'histoire. C'est comme un langage de ce rapidement, le sens des sept têtes, sept diadèmes et dix cornes, ces symboles vont venir plus tard dans l'Apocalypse. Au chapitre 17, notamment. Je vais laisser à plus tard, sans juste introduire, en fait, juste l'introduction ici de cela, pour les voir plus tard dans le livre. Mais clairement, ce sont des royaumes, puissances politiques qui sont associés au dragon, à ça. Et en passant, dans mon couronne ici, c'est le mot grec diadema, diadème. Et pas Stephanos. Il y a deux mots pour traduire couronne dans la Bible seconde, souvent. Stephanos, c'est une couronne faite avec des feuilles qu'on donne aux Jeux olympiques, par exemple. Okay? C'est la couronne de quelqu'un a vaincu dans les sports. Okay? Diadème, c'est une couronne politique qu'on porte une loi quelconque pour ne pas en tomber. Ou des reins. Remarquons bien que ce dragon est grand et rouge. Intéressant que c'est, dans le même verset, c'est dit rouge feu. C'est mon feu pyros, vous connaissez, pyromaniaque, pyrotechnique, c'est ce genre de mot-là, ça vient de là. Cruel, féroce, sanglant, meurtrier, cette rouge feu. Cette expression a été utilisée pour les gladiateurs, particulièrement pour habile avec leur épée pour tous ceux qui les opposaient. On va voir que cette dragon est sanglante et meurtrier. On voit qu'il est grand, en original, c'est mégos. Ça m'impressionne moins. Moi, je me souviens que la première fois, j'ai acheté un disque dur pour mon ordinateur. Ça fait quelques années, c'était 5 mégabits. Ça a coûté presque 5 $. 5 mégabits. Et aujourd'hui, je me souviens dans les ordinateurs avec 64 mémoires. Le premier ordinateur que j'ai eu avec une mègue, c'était de mémoire. Hein? Le premier disque dur avec une mègue de mémoire. Et aujourd'hui, on achète des ordinateurs avec 4 mègues de mémoire libre, des disques durs avec des gigabytes et des terabytes. Et quoi, le mot méga, dans le direct, c'était un mot grandiose. Très grand, très puissant. Je ne remarque rien qui contrôle le ciel des étoiles. La compréhension ici, c'est que quand Satan a tombé dans le péché, il a traîné avec lui le tiers des anges du ciel, qui sont aujourd'hui des forces des rois. Marquez bien que ce dragon peut dévorer son enfant, l'enfant de cette femme. Pensons à la déclaration faite à Satan dans le jardin d'Éden. On se permet de le faire parce que ça parlait de cet ancien serpent. Dieu a dit au serpent, à Satan, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15, le proto-évangile. Ce verset qui explique l'histoire de l'humanité. Nous avons Dieu qui promet que de la postérité de la femme, Dieu va naître quelqu'un qui va écraser la tête de ce dragon, mais que le dragon va blesser le talon de cette postérité. Et que là, on va dire que c'est quoi? Des postérités, c'est une postérité, et c'est Christ. Donc, il y a une lutte entre la postérité de la femme et ce dragon depuis l'histoire de l'humanité. Et juste quelques exemples. La postérité de la femme et le Messie, Jésus et cet enfant mâle. Il y a toujours eu et il y aura pour toujours l'inimitié entre Satan et le Christ. Il y a toujours eu et il y aura pour toujours l'intimité entre Satan et la femme qui va donner naissance au Christ. Et cette femme-là n'est pas Marie, mais Israël dans notre image ici. Alors pensons à ces événements où Satan a essayé de détruire la postérité de la femme. Pourquoi que Caïn a tué Abel? Mais la jalousie, la haine et tout cela. Refus d'accepter le réprimande, refus de faire ce que Dieu a dit. Mais en arrière de Caïn, il y a Satan qui sait que la postérité de la femme va écraser sa tête et qui fait tuer Abel pour disqualifier Caïn. Parce qu'il est maintenant meurtrier, et qui tue Abel, pour ne pas qu'il y ait une postérité qui lui écrase la tête, n'est-ce pas? Pensons à la corruption de la lignée de Seth dans Genèse 6, ces fils de Dieu qui font des enfants avec ces filles des hommes qui font des enfants avec les fils de Dieu. Interprète-le comme vous le voulez, mais une chose certaine, c'est que nous avons ici un effort des puissants démoniaques pour souiller, pour corrompre la lignée de Seth, de choisi qui remplace Abel en effet, comme postérité de la femme. Regardez la tentative de viol de Sarah, femme d'Abraham, deux fois. Il pourrait y avoir confusion pour savoir, tel gars, c'est une fils d'Abraham ou c'est une fils de l'autre que Sarah a couché avec, hein? Vous comprenez? Quand voilà. L'attaque de Satan et Abraham qui tombe dans le piège du foi. Puis on voit la même chose qui se répète avec Rebecca dans Genèse 26. Puis regardez la tricherie et l'inimitié entre Jacob et les aïeux qui concernait, n'est-ce pas, l'héritage. Qui servait dans la postérité d'Ève ou dans la lignée de Jésus-Christ. Puis cette guerre où les aïeux voulaient tuer Jacob. Les aïeux Jacob est obligé de se sauver. Jacob qui devient Israël. Pensons dans Exode chapitre 1er où Pharaon essaie, il dit tous les bébés mâles. Et plus d'un bébé mâle, les femmes d'Israël vont aller chercher des femmes ailleurs, des maris ailleurs, puis le lignage sera souillé, corrompu, puis il voulait corrompre le lignage du Christ. Pensez aux tentatives de meurtre contre David. Dans 2 Corinthiens 22:10, il y a une histoire triste. Athalie, cette reine qui qui essaie de faire périr toute la race royale, y compris tous ses propres enfants. Mettez-vous donc une femme tellement méchante et ambitieuse qu'elle tue ses propres enfants, y compris des jeunes, pour ne pas que personne menace de prendre sa place sur le trône. Heureusement, un souverain sacrificateur a caché de ses enfants, qui est devenu le roi Josias, n'est-ce pas? Pour lui vérifier. Pensons aux tentatives par Aman de tuer tous les Juifs dans l'île d'Esther. Pensons aux sacrifices par les enfants d'Israël de leurs propres enfants. La pire sorte de paganisme dans les voies chroniques. Pensons à l'exemple par excellence, par méchanceté, l'attaque par Hérode contre les bébés nés à Bethléem. Nous n'avons pas là le diable qui essaie de détruire la postérité de la femme. Oh oui. Puis l'ange pareil à Marie que Joseph l'a mis, puis dit son cou. Puis on voit dans Matthieu chapitre 2 Rachel qui pleure sur ses enfants. C'est annoncé prophétiquement où Rachel qui représente Israël pleure sur ses enfants. Chers amis, est-ce que nous comprenons plus maintenant l'histoire de ce monde, l'histoire d'Israël? Maintenant, la semaine prochaine, on va aller dans un petit peu de détail dans le reste du chapitre. On va essayer d'interpréter, je réalise que c'est complexe. On va essayer de les interpréter la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, nous avons 5-6 minutes. J'aimerais faire quelques remarques sur ce passage pour nous aider dans nos vies chrétiennes. Rappelons-nous, malgré toutes les tentatives, Satan ne réussit pas. Avez-vous léger, je pense que j'ai mis 12 tentatives où Satan a essayé de détruire le lignage de la femme pour ne pas que le Christ naisse pour écraser la tête. En passant, quand quelqu'un de mort de cheville, ça fait mal à la tête. Quand quelqu'un écrase la tête, c'est fini, n'est-ce pas? Vous comprenez le lignage ici. Mes amis, là, des fois, on est découragé. Mais des fois, il y a des quoi pour être découragé. Des fois, la vie est décourageante. Et des fois, on pense que notre ennemi Satan est fort. N'est-ce pas? Et on est dans un monde pourri. C'est vrai. Il ne va pas gagner. Il ne réussit pas. Il n'a pas réussi à empêcher la naissance de Jésus. Il n'a pas réussi. Même quand il a tenté, il n'a pas réussi de lui faire chuter. Puis quand la foule voulait le tuer avant son temps, ou le faire couronner de roi avant son temps, il n'a pas réussi non plus. Il n'a pas. Quand il a entré dans le cœur de Judas, un des amis, un des disciples intimes de Jésus, il n'a pas réussi non plus. Il n'a pas réussi. Il ne réussira pas. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chers amis, est-ce que nous comprenons mieux maintenant combien Satan déteste le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui a occasionné la chute de Satan? Si vous étudiez la théologie, tôt ou tard, vous allez venir tomber sur cette question-là. L'origine du mal, l'origine du péché. Pourquoi que Satan tombe? C'est une grande question. Les pères d'Église pensaient que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme la domination de la terre, dans une certaine mesure de l'univers. Est-ce que vous savez que l'humanité va dominer sur l'univers? Est-ce que vous savez que vous allez juger les anges? Hein? Vous allez juger les anges. Que Satan était poussé à la révolte par la jalousie. John Milton, qui écrit un poème époque, la paradis perdu, Paradise Lost, dans son époque, il y a une longue discussion entre Lucifer et Dieu, pourquoi tu vas créer ça, ces hommes-là, ça va juste faire des troubles. Et c'est à ce moment-là que Satan se révolte. D'autres voix, c'est une idée qui n'est pas prouvée du tout par les Écritures, d'autres vont dire non. Ézéchiel et Isaïe semblent élevés en jalousie contre la personne de notre Seigneur Jésus. Deuxième personne de Trinité, Dieu créateur. Que Satan s'est révolté par jalousie. C'est ça que je crois en moi. posé cette question-là tantôt. C'est bien des questions. Je sais que je vais avoir la réponse. Les choses s'appellent des tests de Seigneur. Et rappelons-nous aussi que Satan déteste les enfants du Seigneur. Est-ce que tu réalises que le diable taille? Puis réalisons que ce diable contrôle le système de ce monde. Éphésiens va l'appeler le prince de la puissance de l'air. Le puissant. Je termine avec un mot de Jean, l'apôtre de l'amour. Vous savez qu'il écrit l'Apocalypse aussi, il écrit une lettre. Dans cette lettre-là, il dit ceci. Je vous écris Père, grand-père, comme moi, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est qui est dès le commencement? C'est Jésus-Christ. Je vous écris jeune James, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit petits-enfants, parce que vous avez connu mon père. Petits-enfants, maintenant. De défenseur, parce que vous avez connu Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune vengeance parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. Et j'espère que vous réviser le chant de ce qu'il y a. Bon avant ici. On va, j'ai 61 ans. Je dis toujours que ma petite fille a 6 ans et elle s'en va sur 18. Moi, j'ai 61, je m'en vais sur 81. Puis, vous êtes fort. Vous êtes fort. Grandi. Et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est pour ça que vous êtes fort. Et que vous avez vaincu le malin. Vous l'avez vaincu, le malin. Vous l'avez vaincu. Et là, il dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père de Dieu. Je suis posé de questions cette semaine, ce matin à 3h, ce matin à 8h, ce matin à 5h. Est-ce que j'aime le monde? Est-ce que j'aime le monde? Puis, il y a une tendance chez chacun de nous d'aimer le monde. C'est une attirance naturelle à cause de qui nous sommes. J'aimerais simplement vous dire que le monde, Hollywood, système politique, même si j'aime bien McCain, puis Palin, puis Harper, je l'aime un peu. C'est du monde. C'est le monde, n'est-ce pas? C'est le monde. Mais en vivant le monde, Jésus n'a pas prié qu'on sorte du monde et qu'on soit préservé du monde. Et ça se peut-tu, je crois, trop petit. Est-ce que je suis obligé de m'habiller de la façon la plus extrême parce qu'ils font ça au Hollywood? Écoute, j'ai oublié mon manteau noir, j'ai mis mon manteau vert pâle, ça doit être à moi, etc. Rien comme ça. Mais je ne suis pas obligé de faire un dessin. Je ne suis pas obligé de pratiquer certaines choses, de regarder certains films et certains programmes à la télévision. Parce que c'est un monde. Le monde, chers amis, est contrôlé par le diable. Est-ce que vous comprenez que Hollywood, là, c'est contrôlé par le diable directement? C'est pas extrême, mais il est. Il est prince de la puissance de l'air. Alors, attention. Attention à faire avec le monde. Moi, je suis marié avec une femme. Ça va faire 38 ans, c'est-à-dire. J'en ai trempé. J'ai jamais joué dans mes émotions, ni dans physiquement, avec d'autres femmes. Il y a une réserve entre moi et les autres femmes. Vous comprenez, là? Une réserve. À parler avec d'autres femmes, j'ai des femmes qui sont mes bonnes amies, des personnes que j'apprécie. Et des femmes que j'apprécie et que j'aime de tout mon cœur. Mais la femme, c'est spécial et je me réserve pour elle. Il y a une barrière entre moi et les autres. Vous comprenez, là? Il est là. De temps en temps, je rencontre une femme qui, je trouve qu'elle est dangereuse. Il m'est arrivé une couple de fois que ma femme dit, elle, là, attention. Quand ma femme dit ça, là, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Deux fois depuis qu'on est arrivé. Heureusement, je suis rendu à l'âge où que c'est pas l'âge de nous. J'ai plus les airs de langue que les jeunes filles courent après. D'ailleurs, j'ai déjà mieux ces airs-là. Est-ce que vous comprenez que vous êtes marié avec Christ? Et que ce monde-là, c'est votre ennemi. Et vous allez vivre dedans. Vous allez manger dedans. Mais vous n'allez pas aimer le monde. Et il y aura ça réservé. Okay. Vous suivez? Parce que ce monde-là est contrôlé par qui? Seigneur, c'est par nous avec tes bénédictions. Ah, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Pour quelques-uns de nous aujourd'hui, on ne sent pas comme vainqueur en ayant de découragement. Pour toutes sortes de raisons, Seigneur. Et on confesse que la vie est Dieu. Jean, lorsqu'il écrit ce passage, était en exil sur l'île de Patmos, loin de ceux qu'il aimait. Seigneur, pense les plaies et les cœurs de ceux qui passent des moments difficiles. Parle à nos cœurs, Seigneur. Entre nous, là où ce monde qui attire tellement et tellement dangereux nous a trop attirés et contrôle un petit peu de notre agenda. En Seigneur, faites que nous n'aimions pas le monde, mais que nous aimions Jésus. Et que ce soit évident dans nos priorités et dans notre style de vie. On a parlé du cœur de chant, Seigneur, ça va prendre des pratiques. On a parlé de l'école dimanche, ça va prendre de l'énergie. Pour chacune ici ce matin, Seigneur, donne-nous. Cœur ton salut, Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit une église pleine de monde qui vont venir, qui regarde vers les autres. Encore une fois, Seigneur, garde-nous.